Demain, au studio 104 de la Maison de la Radio se tiendra un grand concours d'éloquence organisé par la Fondation des Femmes en partenariat avec France Culture. Il vise à dénoncer le sexisme par le verbe. 8 candidates seront appelées à rivaliser de verbe en 8 minutes face à un public et à un jury dont la présidente est avec nous. Bonjour Christiane Taubira.
Bonjour Madame Oué.
Merci d'être là avec nous ce matin. Qu'est-ce que c'est l'éloquence? C'est une qualité? C'est un art? C'est quoi?
C'est de l'expression, donc c'est une adresse à l'autre, c'est une relation avec l'autre, l'autre pouvant être les autres, parce qu'en général l'éloquence s'exprime dans un rapport public avec beaucoup de monde en face. Donc l'éloquence c'est une forme d'expression qui contient à la fois la rigueur de la démonstration, parce que on reconnaît l'éloquence surtout lorsqu'une personne est dans une situation d'argumentation. Donc il y a la rigueur des arguments, du raisonnement, et puis il y a la légèreté du verbe, la beauté des expressions, la musique, le ton. Donc, l'éloquence, c'est ça. Alors, ça, c'est ma définition. Elle n'est pas scientifique parce que depuis de très, très nombreuses années, même des siècles, on a réfléchi, on a défini la rhétorique, on a défini l'éloquence. Donc, il y a des définitions beaucoup plus classiques, plus normatives que la mienne, plus conservatrices peut-être aussi. Mais voilà comment, moi, je la définirais. Donc, cela suppose que dans l'éloquence, il y a la franchise. Il y a le respect de l'auditoire. Il y a le souci de convaincre, mais ce respect entraîne que dans ce souci de convaincre, il y a de la franchise, il y a de la vérité, il y a même si la vérité est très complexe, qu'elle ne se scinde pas en un milieu par une médiane très droite, mais il y a un souci de vérité, de clarté.
J'espère que les candidates qui concourront demain vous écoutent, Christiane Taubira, puisque vous donnez quand même un certain nombre de, pour le coup, qualités et critères requis afin d'être élue meilleure orateur, meilleure oratrice en l'occurrence, puisqu'il s'agit demain de femmes.
Exclusivement,
tout à fait, nous allons y revenir. Victor Hugo, dans Les Contemplations, disait « guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe, s'élevant contre le conformisme de la parole ». Il n'y a pas de conformisme quand on est vraiment éloquent, Christiane Taubira.
Alors d'abord, il y a la question de la rhétorique, parce que la rhétorique suppose, hein, et c'est aussi cela depuis des siècles, la rhétorique suppose le souci, alors on reprend Gorgias évidemment avec Socrate, la rhétorique suppose, et Callicas par exemple, la rhétorique suppose, suggère la ruse, le détour, la tentative de convaincre davantage par la parole, par l'éblouissement, par la confusion aussi.
Le politique apprend plutôt la rhétorique. Et l'éloquence.
Je ne sais pas si le politique apprend quelque chose. En tout cas, ceux qui apprennent se mettent plutôt en situation, je pense, de fausseté vis-à-vis des autres. Je pense qu'une personne peut être éloquente sans forcément avoir une très grande fluidité. Une personne peut être éloquente si elle parvient à exprimer des idées claires, qu'elle le fait avec conviction, qu'elle peut s'emparer de quelques éléments tangibles, concrets, pour démontrer que sa conviction peut être partagée, sans que ce soit un lyrisme absolument extraordinaire ou absolu. Donc, je pense que... c'est un débat permanent entre la rhétorique et l'éloquence. Et les jeunes femmes qui ont été sélectionnées dans un processus à la fois transparent, rigoureux et sans doute très très attentionné, parce que lorsque les femmes, sous la Fondation des Femmes, a ce souci, c'est un concours Gisèle Halimi, il faut se hisser, pas à la hauteur de Gisèle Halimi, mais il faut se hisser à la hauteur de l'ombre de Gisèle Halimi. Et donc le processus de sélection a permis, je pense que nous nous en rendrons compte demain. Moi, je n'ai pas participé au processus de sélection, donc demain, je serai en totale ouverture, en totale disponibilité, en totale curiosité. Mais je pense que ces femmes auront l'art, parce que vous savez que la forme est diverse, hein, elles peuvent jouer, elles peuvent chanter, elles peuvent parler. Donc voilà, je pense que d'une certaine façon, il y a comme une réappropriation. Les femmes, là, dans cette opération, reprennent l'éloquence. Reprennent l'éloquence parce qu'on ne pense pas à elles, en général. Lorsqu'on évoque l'éloquence, on ne pense pas, en général, aux femmes. On va vous citer plus facilement des exemples d'hommes.
Ça, c'est une tradition française.
Historiquement, à travers le temps. Ça n'est pas une tradition française, c'est la réalité. Des sociétés françaises, européennes,
ça n'est pas que français,
et d'ailleurs, c'est une réalité, c'est que ce sont les hommes qui, en général, occupent l'espace public, que ce sont les hommes qui, plus massivement, ont l'opportunité de s'exprimer, que ce sont les hommes qui se saisissent de sujets collectifs, de sujets publics, et les traitent en public. Donc, historiquement, sur le nombre, il y a effectivement beaucoup plus d'hommes, mais il y a très longtemps que nous savons qu'il y a des femmes, y compris dans des domaines réservés aux hommes, des domaines scientifiques. Je pense à Hypatia, donc par exemple, bon voilà, ça fait des siècles que on sait qu'il y a des exemples de femmes qui ont été absolument brillantes dans des matières, dans des domaines, les sciences par exemple, réservées aux hommes, et qui s'expriment en public et qui s'expriment avec éloquence, y compris sur ces matières-là.
Ce concours est un concours fait pour dénoncer les abus et les dérives sexistes par le verbe. Pensez-vous qu'en dehors de se réapproprier l'éloquence quand on est une femme, Christiane Taubira, une femme pourrait être plus forte si elle sait dénoncer les abus, puisqu'on parle de mouvement de libération de la parole. La libération de la parole ne peut aller sans une forme d'éloquence. Est-ce qu'une femme se sentirait même plus forte si elle savait convaincre par les mots ?
Alors, toutes les femmes n'ont pas, heureusement, la mission de convaincre par les mots. Les avocates ont la mission de convaincre par les mots, comme les avocats d'ailleurs, mais pas les mots creux, pas les mots inutiles, pas les mots superflus. Par les mots enflés, par les mots justes, par les mots précis et par les mots qui se raccrochent à des choses, à des événements, à un contexte, à un processus, par des mots qui font sens. Donc les femmes qui sont en situation de convaincre, évidemment, si elles maîtrisent les mots, si elles sont en mesure de partager ces mots-là, elles sont plus fortes, mais surtout elles apportent une force au service d'autres femmes. Mais on ne peut pas demander à chaque femme au quotidien, comme on ne peut pas le demander à chaque homme, d'être fort. Chacun d'entre nous a sa force intérieure et c'est une force qui nous accompagne et qui nous aide dans notre vie quotidienne et dans nos rapports aux autres et surtout face aux épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés. Vraiment, on ne peut pas mettre sur les épaules de chaque femme d'être forte et de s'atteler à maîtriser les mots pour faire respecter ses droits et ses libertés. Donc nos droits et nos libertés sont inscrits dans notre constitution, sont inscrits dans la charte européenne, sont inscrits dans des conventions internationales et ces droits et ces libertés doivent être respectés même si nous sommes très faibles, surtout si nous sommes très faibles, surtout si nous sommes très vulnérables et même si nous ne sommes pas sympathiques d'ailleurs.
Christiane Taubira, puisqu'on parle des femmes, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce mouvement qui est un mouvement mondial? Je pense tout simplement à deux actualités du moment. Le fait que dans le nouveau gouvernement espagnol de Pedro Sanchez, 11 femmes soient présentes au gouvernement sur 17, donc il y a seulement 6 hommes. Les femmes sont majoritaires dans son nouveau gouvernement. Et puis ces marches contre le sexisme au Chili qui prennent une ampleur très importante. Avec quel regard regardez-vous ces deux actualités, juste pour en citer deux?
Moi, je dirais de toute façon, c'est une anomalie, la situation des femmes dans le monde au XXIe siècle. C'est une anomalie, y compris ici. C'est-à-dire que qu'on en soit encore avec des lois qui disent il faut l'égalité des salaires, qu'on en soit encore avec des lois qui disent il faut que, gentiment, par étape, 20%, 40%, à telle échéance, on atteigne la participation des femmes à des conseils d'administration de grandes entreprises. C'est une anomalie. Nous sommes plus de la moitié de l'humanité. Nous appartenons à l'espèce humaine. Qu'est-ce qui justifie, à part juste voilà ce fait de nature, qu'est-ce qui justifie que, même en ayant les mêmes compétences, même en ayant très souvent de meilleures compétences, de plus grandes capacités, simplement par le fruit de l'histoire, hein. L'oppression, la domination, ça vous oblige à être meilleur, ça vous oblige à forcer les choses, ça vous oblige à vous surpasser, ça vous oblige à être au niveau 15 quand on demande le niveau 8. Donc voilà, de ce fait-là, souvent les femmes sont davantage en capacité de faire et de donner, et juste parce que femmes, elles sont moins bien payées. Donc c'est ça l'anomalie. Et tout le reste, ce sont voilà, des tentatives de rétablissement, ce sont des circonstances de remettre de la justice. Voilà, c'est tout le reste vient corriger. Tout le reste vient corriger l'anomalie centrale qui consiste à constater que les femmes sont écartées de toute une série de métiers, notamment du pouvoir décisionnaire, qu'elles sont opprimées, qu'elles sont considérées comme des choses, comme des objets, qu'elles sont considérées comme mineures encore dans des textes de loi. Donc voilà. Donc lorsqu'il y a 11 femmes sur 17 dans un gouvernement, il n'y a pas de raison ni de s'en étonner, ni de s'en réjouir, ni de féliciter ceux ou celles qui auraient pris cette décision. Moi, je parie que de toute façon, elles sont meilleures que 11 hommes qu'on aurait mis au même poste, qu'elles feront mieux. Et puis d'abord, si elles font moins bien, ça ne doit pas retomber sur l'espèce. Voilà. Quand un homme fait moins bien, on ne condamne pas toute la gent masculine. Donc voilà, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont extraordinaires toutes et qu'elles feront des merveilles, ni d'ailleurs que je serais d'accord avec ce qu'elles feront ou ce qu'elles diront. Mais bon, voilà, elles sont à leur place, c'est tout.
Christiane Taubira, il y a la question des inégalités fondamentales entre les hommes et les femmes, l'inégalité des droits, l'inégalité des chances, et puis la question des violences. Et le sexisme en fait partie. En ce moment, il y a un très fort débat, qui est un débat d'ailleurs lui-même violent, autour de la tournée de Bertrand Cantat, tournée sur scène à propos de son premier album solo, c'est le premier depuis sa sortie de prison, et la question porte autour de la question de savoir s'il a le droit de se produire ou pas sur scène. Les associations féministes se sont mobilisées en disant notre société ne peut plus dénoncer d'un côté les crimes et la violence d'un homme, de l'autre célébrer ses talents comme si de rien n'était. C'est une question, et là je m'adresse aussi à l'ancienne garde des Sceaux que vous êtes, c'est une question qui est à cheval entre le droit et la morale. Certains disent il a purgé sa peine, d'autres disent il a une obligation morale de discrétion. Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là ?
Alors d'abord, je ne me sens pas tenue d'avoir un avis. Je pense, chaque fois que ce sujet ressurgit, parce qu'il est dans l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, évidemment, je pense à Marie Trintignant et mes épaules s'affaissent. J'ai de la buée dans les yeux et j'ai la gorge serrée et j'ai la rage au cœur. J'ai la rage au cœur. Et puis après, évidemment, il y a des principes. Le fait qu'on peut pas être condamné à vie. Il y a de l'éthique, il y a de la morale, il y a tout ça, mais voilà.
C'est très compliqué.
Même en étant ancienne garde des Sceaux, d'abord, oui. Il ne m'appartenait pas de prendre des décisions de justice, ni de les commenter, ni de les faire exécuter, en tout cas, les faire exécuter au titre de l'administration pénitentiaire, bien entendu. Mais voilà, donc, c'est douloureux. C'est l'immense douleur, la perte irréparable de Marie Trintignant. Et puis, c'est, quel espace il reste à cet homme, parce qu'il reste un être humain, il reste une personne. Mais c'est d'abord et surtout la perte irréparable de Marie Trintignant.
Christiane Taubira, ces causes publiques qui sont les vôtres, qui ont toujours été au cœur de vos combats, vous les portez aujourd'hui d'ailleurs publiquement. Donc vous êtes la présidente d'un jury de concours d'éloquence contre le sexisme. Vous signez des tribunes sur les migrants, en défense des migrants. Alors où certains se demandent quoi faire quand on n'est plus ministre, manifestement vous avez vraiment trouvé votre voie entre littérature, on y reviendra tout à l'heure, et les causes publiques. Il est un homme que vous défendez en ce moment, qui est un réalisateur ukrainien, qui est emprisonné et condamné à 20 ans d'emprisonnement par un tribunal militaire russe pour sa participation aux émeutes de Kiev, c'est Oleg Sentsov. Et figurez-vous qu'Oleg Sentsov a été cité jeudi, avant le G7 à Charlevoix au Canada, qui a lieu en ce moment même, par le président du Conseil européen, Donald Tusk. Il a dit hier, dans une déclaration à quel point il exhortait les leaders du G7 à lui apporter son soutien. Pouvez-vous nous dire juste un mot d'abord d'Oleg Sentsov, de votre combat pour lui et de la façon dont aujourd'hui des leaders européens ou mondiaux peuvent s'emparer de ce soutien, cette solidarité. Il fait une grève de la faim. Hein.
Oui, il fait une grève de la faim depuis 3 semaines maintenant, même plus de 3 semaines, hein, puisqu'il doit être au 26e jour à peu près. Donc c'est un cinéaste ukrainien qui a contesté, comme des milliers de personnes, et des millions j'espère, et comme moi, et comme toutes les personnes qui considèrent qu'il y a un ordre du monde, aussi insatisfaisant soit-il, mais il y a un ordre du monde avec des pays, des frontières, des accords internationaux, des protocoles, et que tout cela doit être respecté, et qu'incontestablement la Russie n'a pas respecté cela vis-à-vis de l'Ukraine. Donc voilà, il conteste, comme de nombreux Ukrainiens. Il a été accusé de participer, de préparer un acte terroriste. Son principal accusateur a déclaré lui-même spontanément qu'il avait été soumis à la torture pour apporter témoignage contre Sentsov, et Sentsov a été condamné. Malgré cela, il a été condamné donc à 20 ans de prison et il est incarcéré en Sibérie, dans des conditions climatiques difficiles. Il proteste et sa grève de la faim, il l'a faite non pas égoïstement, il a décidé de la faire pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens. Donc ils sont nombreux, effectivement, à être incarcérés avec des procédures judiciaires qui sont de façon assez évidente, assez manifeste, assez flagrante, plutôt contestables. Alors je ne confonds pas la Russie, ce grand pays qu'est la Russie, ce qu'elle représente dans le monde, ce qu'elle a apporté au monde, je ne confonds pas ça avec le pouvoir actuel qui manifestement domestique les institutions de façon à donner des sanctions. Judiciaires abusives contre des personnes, contre des citoyens.
Mais vous pensez que la parole du président du Conseil européen peut avoir un effet réel aujourd'hui ?
Sa parole est déjà l'expression publique d'un engagement et d'un soutien. Elle ne doit pas rester parole, parce qu'il y a des personnes qui n'ont que la parole comme outil, comme instrument, comme arme. Et puis, il y a des personnes, comme le président du Conseil européen, qui est à la tête d'une institution, qui doit avoir d'autres moyens s'adresser au président de la Russie et de faire en sorte que la Russie, qui est un grand pays, qui est partiellement en Europe, qui est un immense partenaire, que la Russie se conforme quand même aux règles de base d'un état de droit, et notamment à une justice qui soit une justice juste et honorable.
Que ce ne soit pas qu'un acte de rhétorique, mais pour reprendre votre
exemple,
définition tout à l'heure de l'éloquence, ce soit une vraie parole éloquente avec la franchise qui va avec.
Franche et efficace, il faut qu'elle le soit.